Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Je vous invite à prier pour ce temps de prédication de la parole, que le Seigneur fasse son travail dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu nous as donné ton esprit et ta parole pour guider nos vies. Seigneur, nous voulons ce matin nous remettre à toi, afin que tu nous parles là où nous en avons besoin pour notre existence. Nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu fidèle. Merci parce que tu as manifesté ton amour en Jésus-Christ. Et tu continues tous les jours d'être patient à notre égard, de nous faire grâce, mais aussi de nous donner la force, le courage, les ressources pour vivre cette nouvelle vie à laquelle tu nous as appelés, dans laquelle tu nous as introduits au prix de ton sang. Alors veuille conduire ce moment pour nos cœurs. Et c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. On est donc dimanche, combien déjà? 7 mai. 7 mai, voilà, c'est ça. Dimanche 7 mai, et c'est le second tour des élections présidentielles. La tension est à son comble. Qui ce soir va être président, présidente? On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, on aura quelqu'un de nouveau pour diriger notre pays. Et cette élection est l'une de celles qui a sans doute laissé les Français plus perplexes encore que d'habitude sur le choix à faire. Parce que chaque candidat occasionne pour le pays diverses inquiétudes quant aux propositions de comment gouverner le pays. La situation internationale est agitée. L'Europe, avec les Anglais qui ont fichu le camp, tout ça. Et puis la situation nationale, avec ces dernières années, les attentats, tout ça. On est à cran. On se dit, mais quel pays on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Et puis moi qui suis encore plutôt encore un peu jeune, je me dis, quel pays je vais connaître encore dans 40 ans? Je serai toujours là si Dieu le veut. Hein? C'est inquiétant tout ça. Ça nous préoccupe. Et je tâche par exemple de me mettre à la place de certaines personnes dans l'église qui, par exemple, imaginons que Madame Le Pen devienne présidente. Peut-être ils sont dans la crainte parce qu'ils n'ont pas la nationalité française. Ici à l'église, il y en a. On se dit, mais qu'est-ce qui adviendrait de moi? Est-ce que je ne serais pas pris en tenaille entre des Français qui deviendraient racistes et puis un islam fort présent en France et qui, moi, en tant que chrétien, alors non seulement je serais étranger, mais en plus chrétien. Vous voyez la tenaille. Est-ce qu'on ne va pas me couper les vivres? Est-ce que je ne vais pas devoir retourner dans mon pays? On commence à cogiter, etc. Mais oui. D'autres, on va se dire, oh là là, ils vont dégager 300 000 fonctionnaires. Ben, je suis fonctionnaire. Et les salaires. Et la retraite. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et ça nous préoccupe, ça nous focalise. Et la destinée de notre pays, de nos proches, de nous-mêmes, ça accapare notre attention. Et on se dit, je vais... Bon, faut que je pose mes billes, faut que j'assure mon lendemain. Je vais essayer de naviguer là-dedans et quand même pour avoir une vie la moins moche possible. Et ça nous inquiète parce que c'est vrai que d'abord toutes ces tensions qui sont là, ça a peut-être de quoi nous inquiéter dans le sens où ça fait plus de 72 ans que nous n'avons pas eu de conflit armé sur notre territoire. On ne sait pas ce que c'est que vivre dans un pays en guerre ou avec des craintes, etc., d'attaque ennemie. Alors là, tout ça, ça nous prend la tête. Mais est-ce que ça ne nous prend pas la tête à tort? Est-ce que, en tant que chrétiens, nous focaliser sur finalement notre pays, la situation sociale, les risques politiques, est-ce que c'est pas une focalisation qui nous détourne du vrai but, du vrai cap à tenir? Le chrétien, vous savez, c'est une espèce qui a traversé 2 millénaires d'histoire au travers de différents empires, de différents renversements de gouvernement, de différentes guerres, de différents massacres, au travers du communisme, au travers du nazisme, au travers de, en bien d'endroits dans le monde, de l'islam. Le chrétien, c'est une espèce qui traverse les frontières, c'est une espèce qui traverse les régimes gouvernementaux. Il le traverse en étant focalisé sur autre chose que ce qui se passe là concrètement, parce qu'il est focalisé sur le vrai but, sur le vrai cap, sur Jésus-Christ. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un piège dans lequel nous risquons de tomber ? Pense à notre pays, à notre avenir, à nos lendemains, qui chantent ou qui ne chantent plus. Quand même, c'est important quand même. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus important ? Et du coup, quand on se concentre sur les aléas de l'histoire et des pays, et nous là-dedans, est-ce qu'on n'oublie pas le cap de l'Église et le cap du chrétien? Ce matin, c'est ce que j'aimerais nous examinions au travers du personnage de Timothée. Parce que Timothée, c'est un pasteur pourtant, mais c'est un pasteur troublé. Et Paul est en train de lui écrire 2 lettres justement à cause d'un danger spirituel pour Timothée. Paul est sincèrement inquiet au sujet de Timothée, dans le fait qu'il est en train de se laisser décentrer du vrai but, du vrai cap à tenir, pour se concentrer sur autre chose de terrestre, mais d'éphémère et d'infructueux. Et Timothée est tombé dans ce piège. Quel est le contexte? Dans le contexte de la première lettre à Timothée, c'est un petit peu comme chez nous. On est inquiet. Paul et Timothée vivent sous l'Empire romain, et c'est le célèbre empereur Néron qui règne. Et il y a peut-être un peu des persécutions qui commencent. D'ailleurs, quand Paul écrit à Timothée, il se trouve en prison, dans sa première lettre. Mais il a quand même un traitement de faveur, encore en prison, parce qu'il a un appartement séparé qui est gardé seulement par des soldats. Il peut recevoir des amis, etc. C'est une sorte de résidence, d'assignation à résidence surveillée. Mais quand même, il y a des inquiétudes qui sont là, peut-être comme nous aujourd'hui. On se dit, mais et demain? Comment ça va être demain? Est-ce que ça ne va pas se dégrader? Est-ce que les conditions de vie des gens et des chrétiens ne vont pas se dégrader? Et déjà, à ce stade-là, Timothée commence à perdre de vue le vrai, le bon cap de la vie chrétienne. Regardez en 1 Timothée, au chapitre 1 et au verset 18. Nous allons beaucoup naviguer dans Timothée, dans les deux épîtres ce matin. 1 Timothée chapitre 1 verset 18, Paul dit: la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Là, il est obligé de lui dire: écoute, j'ai peur qu'en ce moment, tu n'es plus en train de combattre le bon combat. Tu te trompes de cheval de bataille. Alors nous, on était dans les élections, cheval de bataille, Macron, pas Macron, Fillon, pas Fillon, Le Pen, pas Le Pen, et ceci et cela, j'en oublie 8 autres. Bon, mais est-ce que c'est le cheval de bataille du chrétien? Et Paul, il dit à Timothée, là, tu te trompes du cheval de bataille. Combat le bon combat. Et du coup, Paul, au chapitre 2, lui enjoint de prier pour le gouvernement. Il dit: j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Alors peut-être Timothée, en recevant cette lettre, il s'est dit: tiens, je vais commencer à prier pour Néron et pour tout son gouvernement, parce que j'ai des peurs là, je sens que peut-être la mayonnaise monte, et on va prier, comme dit Paul, pour qu'on puisse continuer de mener une vie paisible et tranquille. Le seul problème, c'est que 6 ans plus tard, c'est la deuxième lettre à Timothée, l'état de l'Empire s'est dégradé. Paul, qui avait été libéré, est de nouveau sous les verrous, et alors là, plus de traitement de faveur, il est dans un cachot humide, et il n'en sortira que pour être exécuté. Peine de mort. Et l'apôtre mourra en martyr. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'Empire? Entre la première et la deuxième lettre que Paul a écrite à Timothée, comment le contexte politique a-t-il évolué? Eh bien, en 64, entre les deux, il y a eu le célèbre épisode du grand incendie de Rome. Une grosse partie de la capitale a brûlé, des milliers de gens sont morts. Ça, il y a eu des pertes économiques importantes. Vous imaginez un gigantesque incendie qui ravage une grosse partie de la ville. Seulement, les Romains, ils se chuchotent, et de plus en plus fort, que c'est l'empereur lui-même qui a organisé l'incendie pour le plaisir de voir une ville brûler, peut-être comme Troie qui brûlait, ou peut-être parce que la ville ne lui plaisait pas, rue trop étroite, etc., et qu'il voulait rebâtir quelque chose d'un peu plus moderne. Mais Néron était pas tout à fait équilibré dans sa tête, et donc il se chuchote de plus en plus fort qu'il a organisé intentionnellement les incendies. Et plusieurs écrivains romains comme Tacite, Suétone, Pline rapportent ces choses-là. Alors Néron, qui commence à sentir le roussi, et non mais attendez là, c'est pas moi, c'est les chrétiens. Timothée priait pour vivre une vie paisible et tranquille. Il s'inquiétait du contexte, et nous recevons la deuxième lettre de Paul, et entre les deux, les chrétiens sont accusés de l'incendie de Rome. Et là, c'est terrible, il y a une persécution qui s'organise. Les chrétiens sont arrêtés, ils sont jetés aux bêtes féroces, les lions, etc. Et puis ils sont aussi mis sur des croix, enduits d'un combustible, brûlés vivants. Et pour le petit spectacle supplémentaire, de nuit dans les jardins de Néron pour éclairer. Alors oui, la situation s'est dégradée. Et Timothée, qui n'habite pas à Rome. Mais il y a forcément des répercussions, un durcissement contre les chrétiens. Des conditions de vie qui s'alourdissent. L'avenir ne semble pas très rose. Et Timothée reçoit alors la toute dernière lettre, connue en tout cas, écrite par Paul. Oui, il est troublé. Et en réalité, Timothée, il est en danger face à toutes ces secousses de la vie. Il est en danger de quoi ? Oh, pas de finir comme une torche vivante. Hein. C'est pas ça le vrai danger. Il est en danger de perdre de vue le vrai cap de sa vie, en se focalisant sur autre chose. Alors, quel est le vrai cap ? Le vrai cap de l'Église et du chrétien dans un monde troublé. Aujourd'hui, nous, on peut se dire, nous, en tant qu'Église d'Arles, avec ses présidentielles, avec le monde qui est ce qu'il est, avec les attentats, avec tout ça, la situation économique. Ok, nous, en tant que chrétiens, quel est le cap ? Quel est ce que nous cherchons à atteindre et à faire ? De quoi nous allons nous préoccuper ? Eh bien, la réponse que Paul, partout dans les deux épîtres, va donner à Timothée, il dit, c'est le salut des âmes. Et c'est vraiment en parallèle avec le fait que nous, on cherche, nous, à sauver notre peau. Hein. Si on choisit un gouvernement, si on met des frontières ou qu'on n'en met pas, si on a une armée, si ceci, c'est cela, c'est parce qu'on veut préserver, améliorer un style de vie, on veut vivre le mieux possible d'après nos critères. Et on va penser au chômage, on va penser à l'assurance maladie, on va penser à des tas de choses. Et on veut se protéger de ceci ou de cela. Et on dit, est-ce qu'on ne va pas plonger ? Est-ce qu'on ne va pas tomber dans une guerre civile, etc. Oh là là ! Et en prenant de la hauteur, là au-dessus, Dieu dit, ouais, mais il y a quand même quelque chose d'encore plus fondamental, c'est le devenir éternel des âmes. Des hommes, des femmes que j'ai créées à mon image et que le péché détruit. Tous les jours sur cette terre, le péché est en train de détruire les hommes et les femmes que Dieu a créés à son image. Les hommes et les femmes sont en rébellion contre Dieu et ils sont perdus. Ils sont perdus, oh non pas pour les 10 ans à venir, ni pour les 30 ans, mais pour l'éternité. Alors lisons ensemble plusieurs extraits dans Timothée. D'abord en 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. 1 Timothée 1, 15. Paul dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Il insiste. Hein, il dit, c'est certain, c'est digne d'être reçu, catégorique. Et c'est quoi ? Il dit, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est la chose la plus formidable, la plus folle, la plus fantastique qui soit arrivée et dont le chrétien porte le message. Et Paul dit, mais attendez, les élections, le gouvernement, Néron, tout ça, qu'est-ce que deviendra l'Empire romain ? Il dit, moi ce que je sais, c'est qu'il y a une chose qui est bien au-dessus de tous ces aléas géopolitiques. Et celui qui le dit est celui qui va mourir en martyr par ce gouvernement. Et nous avons besoin de bien le réaliser. Ça ne l'empêchait pas. Il dit, non, non, non. Il dit, moi je ne suis pas confortablement installé dans mon fauteuil et en ne craignant rien. Non, non, je suis au cœur des événements, mais je vous dis quand même tient quelque chose au-dessus. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il continue au chapitre 2. Parce que peut-être vous vous êtes dit, tiens, il a dit, mais il faut prier pour les rois pour qu'on puisse vivre une vie paisible et tranquille. Ouais, mais ça ne se résume pas du tout à ça. Regardez la suite de la prière. Il dit au verset 3, selon et cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, donc de prier pour tous les hommes, hein, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est très important. Il est en train de dire à Timothée, oui, il y a un contexte politique. Oui, tu peux prier pour le gouvernement pour qu'on puisse, en tant que chrétien, si Dieu le veut, mener une vie paisible et tranquille en vivant pleinement notre foi. Mais ce qui couronne le tout, c'est pour que nous puissions annoncer l'évangile. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et au verset 7, il dit, à propos du témoignage de l'évangile, il dit, c'est pour lequel j'ai été établi prédicateur apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Sans colère ni mauvaise pensée, pour que des hommes et des femmes soient sauvés. On continue au chapitre 3. Tournez une petite page peut-être. 1 Timothée 3, au verset 15, le cap de l'Église. Hein. Il dit, si je tape, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nous venons de lire que tous parviennent à la connaissance de la vérité, pour que tous les hommes soient sauvés et découvrent la vérité. Et là, il dit, l'Église, c'est la colonne et le soutien de la vérité. Et puis, il continue, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, donc Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Retenez, prêcher aux nations et cru dans le monde. Qui c'est qui prêche ? Ce sont les chrétiens, c'est l'Église. Si l'Église ne prêche pas Jésus-Christ, comment est-il prêché aux nations ? Comment peut-il être cru dans le monde ? C'était tout le sens de la vie de l'apôtre Paul. Nous passons maintenant à la deuxième épître à Timothée. Regardez en 2 Timothée, dès le premier verset, un formidable verset, 2 Timothée 1:1. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour quoi faire ? Pour se prélasser au soleil. Non, pour faire des voyages extraordinaires et découvrir les pyramides d'Égypte. Non, non plus. Pour découvrir Rome, tiens, et ses cachots. Non, non plus. Et il dit pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Il dit, voilà, moi je suis apôtre, je suis envoyé. S'il y a un sens dans ma vie, c'est pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est formidable. Il dit, le cap de ma vie, oui, je suis en prison. Je vais en sortir, je vais y retourner, puis je vais peut-être mourir. Ça ne change pas le cap de ma vie. Le cap de ma vie, c'est d'annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. C'est le cap que nous devons mener. Nous, en tant qu'Église, à Arles, dans ce monde-là, ne perdons pas de vue le cap. C'est d'annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Au chapitre 2. Non, pardon, toujours au chapitre 1, au verset 11. Il dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte. Au chapitre 2 maintenant, de Timothée 2, au verset 10, Paul dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Oui, Le Seigneur sait d'avance qui sont ceux qui vont répondre à son appel, les élus. Et Paul dit, moi je supporte tout à cause d'eux pour qu'ils obtiennent eux aussi le salut. C'est le cap. Alors nous, on peut se dire, mais dans ce monde agité, ou qu'on craint de devenir agité, qui le deviendra peut-être ou peut-être pas, ça ne change rien au cap de chaque chrétien, au cap de l'Église, parce que au-delà des remous politiques qui causent souvent bien des souffrances, mais encore plus haut que ça, c'est la question du salut des âmes. Des hommes, des femmes qui ne connaissent pas Jésus, qui sont perdus dans leur péché, qui sont en guerre contre Dieu et qui ont besoin de découvrir ce Dieu d'amour qui les aime et qui veut les réconcilier, qui veut leur pardonner, qui veut leur donner la vie éternelle. Nous nous focalisons sur les remous de la terre. Et le Seigneur, lui, il voit plus loin, il voit plus haut, il voit pour l'éternité. Et il nous invite à regarder de la même manière. Que vont devenir les gens que je côtoie tous les jours qui sont autour de moi? À propos de leur âme. Alors, Timothée, troublé par ce contexte politique, il s'est laissé décentrer pour se focaliser sur les choses de cette terre. Et peut-être nous, c'est pareil, on se laisse déconcentrer de notre ministère chrétien d'annoncer l'Évangile, d'être des représentants de Jésus-Christ, et on est préoccupé de notre vie, quoi, puis de ce qu'elle peut devenir ou pas devenir. Il y a des choses qui prennent la place du vrai sens de notre vie. Et c'est le cas chez Timothée, alors qu'il est pasteur. Et c'est pas parce que on est pasteur qu'on ne peut pas perdre de vue le cap de l'Église et de la vie chrétienne. On peut, comme Timothée, se laisser décentrer, tromper par l'ennemi et perdre le fil. Nous voyons plusieurs choses que l'apôtre Paul va pointer du doigt concernant Timothée. Nous revenons au chapitre, à la première épître, 1 Timothée. Parce que Timothée est dans un réel danger d'endormissement spirituel et de perte de cap. D'abord, il y a du flottement dans sa piété personnelle, du flottement dans sa vie de prière et de lecture des Écritures. On le voit au chapitre 4, 1 Timothée 4, verset 8. Paul est obligé de lui dire « Exerce-toi à la piété. » Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Peut-être que Timothée faisait plus de sport au gymnase. Il y avait des gymnases dans toutes les villes. Peut-être qu'il passait plus de temps au gymnase que dans la lecture de la parole ces temps-ci. Et il y avait du flottement. Il dit, exerce-toi la piété. La piété est utile à tout, elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous avons déjà vu cette expression-là tout à l'heure, n'est-ce pas? À propos du salut. Dieu veut que tous soient sauvés. La même expression revient, une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. La piété est utile à tout. Il dit, là, en ce moment, ta piété, c'est flottant. Hein. Ensuite, un manque d'engagement. Tournez, allez juste un petit peu après, au verset 15-16. Déjà 14, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Hein, c'est être un peu négligent dans l'engagement qu'on a pour Jésus. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Au verset 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Paul avait senti que chez Timothée, il y avait un flottement déjà dans sa piété personnelle, mais aussi dans son engagement à prêcher la parole de Dieu. Il y avait aussi un début de tentation de matérialisme. On l'a vu la dernière fois, 1 Timothée 6. Paul est obligé de lui écrire sur l'amour de l'argent, racine de tous les maux. Et au verset 11, il dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Fuis ces choses. Nous allons maintenant dans la deuxième épître et une autre chose que Paul pointe du doigt chez Timothée, c'est qu'il s'embarrasse des affaires de la vie. 2 Timothée chapitre 2, verset 3. Il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Verset 7, il dit « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » C'est vraiment un appel à Timothée, où il dit « Écoute, il faut vraiment que tu comprennes l'enjeu de ce que je suis en train de te dire. Là, tu es en train de te décentrer complètement du vrai sens que Dieu veut donner à ta vie. Tu es préoccupé, tu t'embarrasses des affaires de la vie. » Et du coup, tu ne peux pas être un soldat de Jésus-Christ efficace. Il continue en le mettant en garde contre les passions. Ah, on a tous des passions, n'est-ce pas, qui nous prennent du temps, de l'énergie et de l'argent. Et qui, en plus de ça, parfois nous conduisent à des péchés. À Timothée, au verset 22, continuez, 2 Timothée 2, 22, il lui dit... Juste avant, au verset 21, il est parlé de quelqu'un qui se conserve pur, hein, se conserver pur. Au verset 22, il dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Alors bon, Timothée est un jeune, il lui dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Il aurait été vu, il aurait dit « Fuis les passions de la vieillesse ». À chaque âge correspond des passions. Et là, Timothée, bien que pasteur, il semble qu'il est un peu écartelé. Il s'embarrasse des affaires de la vie. Les passions de la jeunesse, quand même, ça me travaille, tout ça. Il est décentré du cap. Et puis, en plus, ça se traduit aussi par une irritation dans son travail. Une irritation qui est un petit peu latente, comme ça. Juste après... Au verset 24, Paul lui dit « Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. » Voilà, plusieurs endroits où effectivement Timothée... Bon, ben c'est pas rien hein, ce qui est en train de se passer dans l'Empire romain, avec la persécution des chrétiens. Il a peut-être des amis personnels qui ont fini en torche vivante dans les jardins de Néron. Et là, ça lui a fait perdre le cap, perdre le fil. Alors, Paul lui écrit. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas les seuls problèmes qu'il rencontre. Parce que là où nous voyons qu'il a vraiment perdu le cap, et le cap, c'est que Dieu veut que tout soit... sauvé. Revenez un petit peu en arrière, 2 Timothée 1. Au verset 7, au verset 6 déjà, hein, Paul, il le reprend sec, hein, il dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu. » Verset 7. Il dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » Ah, il a un petit problème là, Timothée, c'est qu'il semble un peu timide. On va voir ce que ça veut dire. Il dit, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et le verset 8, il dit, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi sont prisonniers, mais souffrent avec moi pour l'Évangile. Au verset 12, Paul dira, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte. Et il citera juste après un frère en Christ qui s'appelle Onésiphore au verset 16 et qui dit « Il n'a pas eu honte de mes chaînes ». Timothée avait non seulement honte du témoignage à rendre à Jésus, mais honte aussi de Paul qui était prisonnier. C'est quand même quelque chose qu'un pasteur, il ait honte d'évangéliser. Ben oui. Eh ben oui. Mais c'est pareil pour tout le monde. Et c'était le cap de l'Église. Paul dit, moi je suis apôtre pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Et il dit à Timothée, mais toi aussi souffre avec moi, allez au boulot. N'aie donc pas honte de l'Évangile, ni du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus. Timothée, il avait pas mal perdu le fil, hein. D'ailleurs, quand il se présentait devant le Seigneur, il n'était pas toujours très fier de lui-même. Pas très fier de sa vie chrétienne, parce qu'il sait qu'il passe à côté. Regardez 2 Timothée 2,15. Paul lui dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. » Est-ce que j'ai, quand je me présente devant Dieu, est-ce que je suis plutôt fier de ma vie chrétienne ou est-ce que j'ai plutôt à rougir? On le sait à l'intérieur de nous-mêmes, hein, et Timothée le savait. Imaginez, une occasion se présente pour témoigner et il garde le silence. Vous croyez qu'il revient chez lui le soir pour parler au Seigneur sans rougir? Oui, Timothée se montre muet. Au chapitre 4, verset 2, Paul est obligé de lui rappeler. Il dit, tu sais, t'es là pour le Seigneur. Ton cap, c'est d'annoncer l'Évangile. Alors, au verset 2, il dit, et même au verset 1, ça commence par quelque chose de très fort, il dit, je t'en conjure. Puis après, il y a tout un truc, mais il dit, je t'en conjure, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Peut-être Timothée, il faisait le minimum syndical. Paul, il lui dit, c'est pas que dans les bonnes occasions que tu peux témoigner de Jésus. Il dit, en toute occasion, favorable ou non. Et Timothée gardait le silence quand il aurait dû parler. Il refuse d'avoir à souffrir avec Christ. Il préfère un certain confort. On l'a vu. Il s'embarrasse des affaires de la vie, il ne veut pas souffrir comme un soldat. Est-ce que nous avons le même problème que Timothée? Est-ce que nous ne sommes pas dans le danger d'avoir perdu le cap de la mission de l'Église, de la mission du chrétien, dans une époque peut-être troublée, dans un monde qui va peut-être se troubler davantage? Mais quoi qu'il en soit, comme je disais tout à l'heure, dans un monde où à travers 2 millénaires depuis Jésus, le chrétien a traversé les guerres, les révolutions, les massacres. En parlant de Jésus autour de lui. Quel que soit le contexte de notre pays, ce qui est important pour Dieu, ce sont les âmes des gens qui vivent dans ce pays. Nous sommes en France. Ce qui est important pour Dieu, ce sont les âmes des Français. Il ne faut pas passer à côté. Dieu veut les sauver de la destruction du péché. Alors, à nous d'annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut nous reprendre en main. En 2 Timothée 1:6, Paul lui dit, quand il dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme », puis après il dit « N'aie donc point honte de l'Évangile », il dit « Reprends-toi en main ». Reprends-toi en main, ranime la flamme là. Reprends-toi en main. Retrouve le cap. Regardez ce cap de Timothée 4, verset 5. Il dit « Sois sobre en toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Et Paul rajoute après « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Ça veut dire, Paul est en train de dire « Moi, je sais que ça y est. Dans quelques semaines, je vais être exécuté. Ma course est finie. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. » Et verset 7, il dit « Mais j'ai combattu le bon combat. » Regardez 7. Il dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Formidable. Il dit « Moi, j'ai fait ma course et je l'ai menée avec le bon cap et j'ai atteint le bon port. » Et il dit à Timothée, et toi ? Toi, tu prends le relais. Va au bon endroit. Va dans la bonne direction. Saisis la vie véritable. Tournez en arrière en 1 Timothée 6, 19. Il dit de s'amasser pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Est-ce que la vie véritable du chrétien, c'est si M. Macron ou Mme Le Pen deviendra président ? C'est ça la vie véritable du chrétien ? Est-ce que c'est si l'islam va grandir en France ? Ou pas ? Est-ce que c'est si les retraites, on va les avoir à 60 ans ou à 65 ans ou à 70 ans ? C'est ça la vie véritable du chrétien ? C'est pas ça la vie véritable du chrétien. Ça, c'est quand on se décentre de Jésus-Christ et du premier problème prioritaire qui est que l'être humain est étranger et ennemi de Dieu et qu'il est perdu et condamné. Et que nous qui avons trouvé, découvert Jésus-Christ, nous devons annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus. C'est ça le véritable enjeu. Alors, ça vaut la peine de garder le bon cap. Paul dit, hein, la couronne de vie m'est réservée. Il dit, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Une autre promesse, chapitre 6, verset 17, c'est que dans les problèmes, Paul dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Vous avez vu sa préoccupation ? C'est que le message de l'Évangile soit entendu par tous les païens. Et il dit, je reçois la force de Jésus, je reçois l'assistance de Jésus. Et il dit, j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. En résumé, Paul encourage Timothée en lui disant, tu sais, ce verset que nous avons lu tout à l'heure, la piété est utile à tout. Elle a les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. Le bonheur pour aujourd'hui et le bonheur pour toujours. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps de ne plus nous laisser distraire par les affaires, l'agitation nationale, internationale, et puis notre préoccupation à préserver notre niveau de vie? Non. Le cap, c'est d'annoncer l'évangile. Les âmes perdues sont bien plus précieuses que nos lendemains qui chantent ou qui déchantent. Rappelons-nous ça. Les âmes perdues autour de nous sont plus précieuses que nos lendemains qui chantent ou qui déchantent. Prions. Seigneur, bien sûr, nous voulons commencer par te prier pour notre pays parce que tu nous y invites. Et certes, pour que nous puissions continuer de vivre une vie paisible et tranquille en toute piété. Mais quel égoïsme si notre prière se résume à cela. Non, Seigneur, tu veux que notre prière soit parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous voulons, Seigneur, retrouver le vrai cap que tu as fixé à ton Église, que tu as fixé à chaque chrétien. Faire l'œuvre d'un évangéliste, remplir notre ministère, annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Aide-nous à ne pas nous laisser distraire et emmener dans autre chose. Et nous voyons, Seigneur, comment Timothée était guetté par ce danger. Les passions de la jeunesse, piège du matérialisme, la honte de témoigner, les affaires de la vie qui l'embarrassaient dans sa course. Seigneur, que nous puissions nous reprendre en main et retrouver la bonne direction s'il est besoin dans notre vie. Peut-être nous l'avons partiellement perdue et tu veux nous la faire reprendre pleinement. Alors travaille dans chacun de nos cœurs pour que nous ne perdions pas notre vie, mais que nous combattions le vrai combat, le bon combat, afin de saisir la vie véritable et ne pas passer à côté de notre vie en toi. Et c'est au nom de Jésus que nous te demandons de nous sonder, de nous corriger. Amen.